Moi, ce que j'aimerais avant de mourir, c'est qu'on m'oublie.
Moi, je suis... Tu vois, je joue la chair de poule par moment. Et puis, ben là, je suis encore assise. Parce que quand j'ai entendu ça, je me suis assise. Je me suis dit, je ne fais rien. J'attends, j'écoute. Et puis, ben voilà, je crois qu'on trouve pas mal de réponses dans ce qui s'est dit. Et puis, ben, être en paix avec soi-même. Et puis, l'amour. Je vois pas ce qu'on peut souhaiter d'autre. Enfin, pour moi, personnellement. Bah écoutez, je voulais encore vous dire merci pour cette émission-là, parce que c'est vraiment ce que je préfère, les émissions comme ça, très profondes, mais il y a plein de choses et tout n'est pas perdu quand on entend ça. Au revoir, à bientôt.
Salut, c'est David de Flines-les-Raches, dans le Nord. J'appelle parce que j'ai écouté avec attention l'émission de cet après-midi, et puis... Ça remue, ça rend la vie moins légère. Ça veut pas dire que l'émission était pesante, loin de là, mais en tout cas, ça donne à s'arrêter un moment, à regarder derrière soi, parce que devant soi, on sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et effectivement, ça rend l'existence moins légère. Alors voilà, moi, personnellement, deux choses avant de crever. Je voudrais avoir dit au revoir, simplement au revoir à mes enfants et au revoir à ma femme. Et c'est un peu pour ça aussi que tous les matins quand je les quitte pour aller au boulot, ce au revoir-là, je me dis toujours que c'est peut-être le dernier et je veux pas le louper chaque matin, je veux pas le louper. Et puis, moi par exemple, je veux pas crever, je refuse de mourir. Ça a l'air infantile et futile comme ça, mais je ne veux pas, je refuse ça et je mourrai, je pense, irréconcilié. Je mourrai insoumis, révolté, j'aime trop la vie et je ne veux pas mourir. Point. Je sais que c'est idiot, mais c'est comme ça. Salut.
Je ne voudrais pas crever sans... Eh bien, moi, je ne voudrais pas crever sans avoir rencontré Dieu. Pour avoir une franche explication avec lui. Lui dire, et alors, bon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce merdier qui nous a foutu sur Terre? Ça va bien la peine de crier tout ça pour en arriver là? Hein? Arrête tes conneries maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu vas me retaper tout ça. Et si on me dit, Dieu n'existe pas, et couillon, perds pas ton temps. Eh ben au moins, je le saurai avant de me casser la pupe. Allez, salut Daniel. C'était Jean de Belgique ici.
Je ne voudrais pas mourir sans faire pleurer de rire tous ceux qui m'aiment, sans écarter le drap qui cache ton épaule, sans prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Je ne voudrais pas mourir pour faire sonner l'alarme au creux de vos yeux, pour entendre grincer la porte de ma chambre d'enfant. Je voudrais mourir... en emportant la vie, et aller voir là-bas si j'y suis.
Je voudrais pas crever sans avoir fait quoi, sans avoir dit quoi, sans avoir eu, sans avoir été. C'était l'émission d'hier. Et voilà, quelques messages donc sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Message délicatement cueilli par les doigts délicats de Christophe. Je rappelle le numéro du répondeur, le 01 56 40 37 37. Je voudrais pas crever. Ça fait très drôle et un peu bizarre d'entendre des mots comme ça. Là où je me trouve, je suis à la gare de Bologne. Et dans cette gare de Bologne, le 2 août 1980, il y a eu un attentat dont tout le monde se souvient évidemment à Bologne, évidemment en Italie, et beaucoup parmi nous en France se souviennent de cet attentat qui a fait plus de 80 morts, des centaines de blessés, et qui était un attentat aujourd'hui reconnu, je le lis sur cette plaque, sur la liste des personnes mortes dans cet attentat, victime del terrorismo fascista, victime du terrorisme fasciste, le 2 août 1980. Donc voilà, c'est une date considérable dans l'histoire des fameuses années de plomb qui ont pesé sur la péninsule, sur l'Italie, mais c'est aussi un lieu et un événement qui remet en perspective pour nous l'idée que nous faisons de ces années. Notre idée, c'était les brigades rouges, c'était les rouges, c'était les attentats gauchistes ou d'extrême gauche. Il y a eu aussi beaucoup et majoritairement des attentats aveugles perpétrés par l'extrême droite, par ce que aujourd'hui ici on appelle des fascistes. Voilà, on continue notre enquête sur les années de plomb. Aujourd'hui, comme il est largement question de foot aussi, on ne parle pas que de ça, évidemment, à Bologne et en France, partout, c'est le foot. Eh ben nous, on revient aussi sur le foot, mais à notre façon, et ça s'appelle « Va te faire foot ». C'était un reportage de Thierry Charles. D'autres messages auparavant, 01 56 40 37 37.
Ouais, salut Gérard, c'est pour exprimer ma solidarité avec les gars d'EDF là, qui font chier le monde. Je viens d'écouter Pernaud là dans son sa grande glace du trésor, qui a fait passer les agents d'EDF pour des nantis, évidemment, pour braquer tout le monde contre eux. Mais je travaille à France Télécom et je voudrais leur dire d'utiliser les moyens de pression qu'ils ont, parce que nous on n'avait aucun moyen et c'est du massacre quand on voit ce qui se passe dans notre entreprise, dans mon entreprise. On n'a plus un rond pour changer un bout de cob, on n'a plus un rond pour changer une voiture, on n'a plus un rond, il y a des suicides en pagaille, des dépressions, n'en parlons pas, pression à tous les niveaux, c'est à en chialer, quoi, quand on voit ce qui se passe, quoi. Alors si vous pouvez éviter de passer par là où on est en train de passer, j'en ai envie de chialer tellement que c'est dramatique, quoi. Les pouvoirs financiers là, alors qu'on devrait avoir des entreprises citoyennes pour faire bosser les jeunes, pour on a un boulot par-dessus les oreilles, on veut commercialiser des services du haut débit, internet pour tout le monde, on a des réseaux qui se cassent la gueule de partout, il y a un boulot monstre et on pourra embaucher des milliers de gamins pour nous donner un coup de main parce qu'on devient vieux nous aussi. Putain, la sortie, tu vois ce qui se passe là, c'est honteux, quoi. Alors si vous pouviez encore baisser des manettes, faire chier le monde, mais vraiment les faire chier, pour éviter de vous faire privatiser, parce que ça va être la même merde que chez nous, quoi. Alors foutez le bon merde, j'ai complet, avant de partir en vacances, qu'on les fasse chier, tous ces cons, hein. Tous ces cons qu'on le pognon, hein. Allez, courage, chalut, salut.
Pourquoi Sarkozy ne fait-il pas un bilan de la privatisation de France Télécom? 70 milliards d'euros de dettes, soit 10 euros par tête de pipe sur la Terre. Si on met des billets 1 par Terre, on fait 4 fois et demi le tour de la Terre, 4 fois et demi le tour du monde. Pourquoi ne pas parler des 9 milliards que vous avez, que les usagers ont payés par les impôts pour renflouer France Télécom? Pourquoi ne pas parler de la multiplicité des réseaux, 5 sur Paris, 7 à la Défense, tous déficitaires, alors que les gens de la Creuse, de la Lozère sont obligés de payer dans leurs impôts locaux l'installation de la DSL et du téléphone mobile? Pourquoi ne pas parler de l'inefficacité de France Télécom, qui est incapable de répondre sur une grosse panne de réseau qui ne serait plus réparée s'il y avait une tempête, parce qu'il n'y a plus personne pour le faire? Pourquoi ne pas faire ce bilan? Pourquoi continuer à vouloir privatiser EDF avec les mêmes arguments? C'est fou, ça. Au revoir.
Salut là-bas, si j'y suis, c'est Pierre Ni des Pyrénées Centrales. Je suis en train d'écouter votre émission sur la libéralisation des services publics, c'est super intéressant. Et juste, j'aurais bien aimé que vous rappeliez que c'est quand même une coalition de gauche qui a commencé le sale boulot. C'est quand même Mitterrand qui a initié la décentralisation. Et c'est une coalition avec des communistes, des écolos et les socialistes qui ont commencé à privatiser France Télécom. Je crois que c'est important, on a des élections ce week-end et même pour les prochaines, quoi. Il faudra garder à l'esprit que la gauche elle n'est pas toujours là où on croit qu'elle est.
Je me pointe sur le répondeur pour lancer un appel. Nous sommes un petit village, Le Plan, près de Cazères-sur-Garonne. Et on a gagné la totale. Fermeture de la poste fin juin. Plus 4 essais de maïs transgénique. La priorité pour l'instant, c'est la poste. Tout le conseil municipal a démissionné. On ne veut pas d'un point poste, on veut garder notre bureau. D'autant plus que la population augmente. Plus 100 personnes en 3 ou 4 ans. Le village est couvert de banderoles. On manifeste samedi 12 juin à 8h devant la poste de Cazères. On espère du monde. Et pour les OGM, c'est pas fini. On en reparlera. Merci Daniel. A ciao.
Oh! Hey, winner!
Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Char. Là-bas, si j'y suis, va te faire foutre.
Flight number 2, arriving from...
Aïe, hop! République populaire du Congo 2. Mali 1. Bonne sorcière.
Bonne sorcière.
Bonne sorcière.
Bonne sorcière.
Magnifique bonne sorcière. Bal ici des Congolais avec Mono. Mono pour Mbele. Et Mbele marque le troisième but. Oui! Le troisième but congolais! Le troisième but congolais! François Mbele! François Mbele! François Mbele! La République populaire du Congo mène sur le score de 3 buts à 2. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? La République populaire du Congo!
Le rêve, c'est le rêve, il faut rêver, et ça fait rêver. Le rêve, il faut rêver, ça fait rêver, chacun a le droit au rêve. C'est le mot rêve doit être l'un des plus employés dans les commentaires sportifs, dès qu'il s'agit notamment de foot, le rêve. D'ailleurs, la campagne Danone en 1998 était « Il faut croire en ses rêves ». Le foot, le rêve, c'est un rêve, c'est un rêve pour tous, c'est un rêve à la portée de tous. Dans les grands débats sur les religions, le retour du religieux ces temps derniers, on en a oublié une religion, un opium du peuple, des peuples, c'est le sport et plus précisément le foot. Un rêve qui serait à part, qui serait loin, qui serait à la fin du journal, qui n'aurait rien à voir évidemment avec la politique, qui serait au-dessus de ça, en dessous de ça, peu importe, mais qui n'aurait rien à voir, qui n'aurait rien à voir non plus avec la société, qui ne dirait rien sur l'évolution de nos sociétés, sur l'exploitation, sur... Eh bien, on se doute bien que c'est pas tout à fait vrai. Et on sait que le foot appelle, bien sûr, beaucoup d'appelés et peu d'élus. On va parler de sélection des joueurs et on va parler surtout de ces jeunes Africains pour qui le foot c'est tout dans la vie. Mais là c'est encore plus qu'une religion, si c'est possible, c'est quelque chose de sacré, on peut parler vraiment d'une traite négrière sans abus, c'est-à-dire ces agences, ces filières par lesquelles passent ces joueurs du Cameroun ou d'ailleurs, et qui se retrouvent un peu n'importe où dans le monde au gré des demandes des clubs, et notamment en France, en Belgique aussi, un peu partout, et qui, s'ils ne sont pas sélectionnés, ce qui est le cas de la plupart, se retrouvent paumés, échoués, sans papier et complètement largués. Or, il se trouve que un ancien joueur, enfin un joueur qui s'appelle Jean-Claude M. B. Voumine, c'est un nom du Cameroun, a monté une assoc pour venir en aide et soutenir un peu ces jeunes joueurs largués et qui, on va voir pourquoi ils ne peuvent pas ou n'osent pas rentrer au pays. Mais bien évidemment que le sport et tout spécialement le foot est un fait politique total et qui en dit long, qui dit tout ou presque sur l'évolution de nos sociétés et aujourd'hui évidemment sur la toute puissance, la prééminence de l'économique sur tout le reste des valeurs et de nos vies. Et j'ai envie qu'on commence ce reportage aujourd'hui avec une phrase particulièrement éclairante de feu Cornelius Castoriadis, qui disait: aujourd'hui on ne gagne pas parce qu'on a des valeurs, on a de la valeur parce qu'on gagne. C'est jusqu'à 18h, c'est un reportage de Thierry Scharf. Pas de faire faute.
Bafana bafana Morocco, Tunisia, Africa football. Bafana ba Cameroun, bafana ba Nigeria. Bafana bafana Morocco, Tunisia, Africa football eh. Africa yo so nae pulasi. Africa football eh.
Nous sommes au stade de France en 1998, c'est la Coupe du Monde qui continue ici. Le Cameroun marche maintenant, c'est le Bafana Bafana. Le Bafana Bafana maintenant sur le Maroc, la Tunisie, Nigeria, Nigeria, Bafana Bafana, Bafana Bafana. Sur le Bafana Bafana, mais qu'est-ce qui va se passer?
Un corner pour l'équipe de France tiré par Emmanuel Petit. Attention à ce corner et dans la surface de réparation, le ballon pour Zidane. Et but! But de l'équipe de France sur le corner d'Emmanuel Petit. La tête de Zizou. Premier but pour l'équipe de France. 1-0 pour la France.
1-0 pour la France. Zidane qui vient de marquer à la suite de ce corner d'Emmanuel Petit. Regardez, regardez la joie des Français.
Le foot, je ne sais pas s'il n'y avait pas le foot, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Le foot, c'est tout. Le foot, c'est ma passion. C'est ma passion. J'ai fait l'école. Mais ma passion, c'était le foot. C'était de faire du foot, le faire le matin, le faire le soir, le faire la nuit, le faire à 2h, 3h. C'était ça. C'est ça, moi. C'est ça ma passion, le foot. Dans ma chambre, j'ai un ballon de foot que je tape. De temps en temps, je peux, quand j'ai un problème, j'ai une insomnie, je me lève, je prends le ballon du foot et je tape. Le foot, c'est le foot qui nous permet d'oublier certaines difficultés. Vous allez prendre un Africain qui est dans la merde, lorsqu'il s'en va sur un terrain, en 90 minutes, il oublie qu'il souffre. C'est après, lorsque l'arbitre siffle la fin, qu'il se dit, putain, je vais dormir où là? Qu'est-ce que je vais manger là? J'ai pas de ticket de métro, je vais me faire choper.
Tu parles de toi là?
J'ai pas de moi. Voilà.
Alors, lui, ben, il s'appelle Rodrigue et il a suivi ce chemin depuis son Afrique, depuis sa ville africaine, jusqu'à Paris, jusqu'en France. Et là, formidable, l'Eldorado, ces jeunes Africains, mais pas seulement, on pourrait parler des jeunes d'Afrique, d'Amérique latine, et d'ailleurs, dans le monde, rêvent évidemment devant ces immenses ce joueur qui sont pas des demi-dieux, ce sont carrément des dieux qu'ils rêvent un jour d'imiter. Et puis, il y a ce phénomène de la chair à ballon. C'est pas une histoire récente. On a vu, qu'on se souvienne de ce qui s'est passé dans la boxe autrefois, hein, avec les managers, ce qui ressemble tout à fait aux impresarios dans d'autres domaines de l'activité économique, artistique. En l'occurrence, mais il y a ces filières, il y a cette chair à ballon, et puis il y a ce garçon Jean-Claude B. M. Voumine, j'ai du mal à prononcer ce nom parce que ça commence par plein de consonnes, qui a créé une assoce il y a peu de temps qui s'appelle Culture Foot solidaire. Alors il y aurait presque comme deux mots de trop, culture, foot et solidaire. Ça va pas forcément ensemble. Ne croyez surtout pas que nous situons une espèce de mépris du sport, ce mépris hautain du foot. Pas du tout. On adore ça. Dans l'équipe de la Basse, si j'y suis, il y a des gens qui adorent le foot, qui suivent les matchs de foot. C'est pas du tout un rejet. C'est simplement un éclairage à un moment sur sur la face entièrement négative et pourrie de ce qui est un sport, va savoir.
Allez ! Mais Culture Foot Solidaire, c'est une association de loi 1901 et qui a pour objet essentiellement de venir en aide, de mettre en place des mécanismes de solidarité nord-sud. Notre gros projet concerne les jeunes footballeurs africains en difficulté en France. Donc tous ceux qui viennent par divers moyens, qui ont été dans les clubs, qui ont été rejetés parce qu'ils n'étaient pas assez compétitifs, ceux qui sont venus par des agents officiels ou non officiels, ceux qui sont venus de leur propre chef, essaient de récupérer ces jeunes qui sont complètement détruits, démoralisés, complètement perdus
à la rue.
C'est devenu un business. Et puis l'Afrique, c'est le continent, le maillon faible, c'est l'endroit où on peut agir en toute impunité, profiter de la misère, du désarroi des populations, des familles, des jeunes, pour se faire de l'argent sur leur dos et puis faire un commerce, jouer les négriers, quoi.
C'est de l'esclavage, voilà. Moi, je n'ai pas d'autre mot. Hein. Au moins, l'esclavage avance avec, voilà, ça existe. Voilà, tu vas dans les travaux forcés, voilà, c'est clair. Mais là, aujourd'hui, c'est un esclavage tellement... C'est tellement pernicieux, c'est tellement vicieux, c'est tellement malhonnête parce que là, on exploite vraiment le désarroi des gens. Avant, il y avait bien évidemment des jeunes footballeurs africains qui n'étaient pas sélectionnés, qui n'étaient pas gardés, qui étaient en fin de contrat, qu'on ne faisait pas signer. Ça, c'est la loi du sport. Tu es bon,
c'est normal. Oui.
C'est tout à fait normal. Donc maintenant, aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, que ces jeunes-là sont de plus en plus nombreux. Ils n'ont pas de papiers. Comment vous voulez avoir des papiers dans cette situation? Vous arrivez d'Afrique, vous faites des essais dans des clubs. Et vous ne réussissez pas, et évidemment, vous n'avez pas de contrat, et dès l'instant où vous n'avez pas de contrat, on ne peut pas vous faire une carte de séjour. Vous avez un visa touriste de 3 semaines, maximum 1 mois, qui arrive à échéance. Vous voulez pas retourner au pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, l'agent est parti, vous ne le voyez plus, vous vous retrouvez face à vous-même, et c'est au fur et à mesure que vous vous rendez compte que le jeune, en général, se rend compte un peu du guépier dans lequel il s'est fourré, quoi. C'est une exploitation pure et simple.
A, B, C, B, C, D, wonderful. A, B, C, B, C, D, wonderful. Mami, tell me, say, no, go, kumba, wata. I give my wata, I say something wonderful. Oh, nous sommes les vainqueurs, nous sommes les lions. Les lions du pays, les lions, et donc, wonderful. On va gagner, on va danser, un fou après ça, oh, c'est la grande fête. A, B, C, B, C, D, oh, oh, A, B, C, B, C, D, wonderful. Mami, can we say no, go kumba wata, I go kumba wata, say something wonderful. Mangondele, baby, oh, be wonderful. Hey, hey!
Pas un gamin qui ignore cette chanson des Lions Indomptables, pas un Africain, pas un amateur de foot qui ignore cette des chansons comme celle-là et d'autres, puisque chaque club, chaque groupe a son chant. Et bien sûr que Jean-Claude Bévoumine, qu'on vient d'entendre, qui est d'origine camerounaise, et qui est un joueur professionnel, il a eu un petit accident, et aujourd'hui, il est entraîneur à Saint-Gratien, dans le Val d'Oise. Il entraîne des amateurs, et donc il a fondé cette assoce en 2000, il y a 3 ans et demi, culture foot solidaire, donc pour aider les jeunes joueurs africains en difficulté. Alors combien sont-ils? Ça, on ne sait pas du tout, on avance des chiffres faramineux. On dit 15 000, ça semble tout à fait invraisemblable. On dit qu'il y en aurait 10 000 en Italie. Enfin, ça c'est assez invérifiable. Par nature, ce genre de choses, évidemment, reste très flou. Mais enfin, en tous les cas, c'est beaucoup. Et alors, ces joueurs, bon, un peu échoués dans la galère, ben, ils se retrouvent évidemment. Et là, Thierry les a rencontrés dans un stade, on dira pas lequel, de la banlieue parisienne, où les échoués, les cocus du miroir aux alouettes se retrouvent.
Aujourd'hui, il s'agit vraiment de mettre en marche une sorte de réseau de solidarité.
Vous connaissiez l'association de Jean-Claude?
Nous avons entendu parler vaguement. Nous avons entendu parler.
Vous faire du foot là, ici, là, aujourd'hui?
Si. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes tous à peu près recyclés dans des activités qui n'ont plus rien à voir au foot. On joue au foot juste pour entretenir la forme.
Toi, tu connaissais l'association de Jean-Claude?
Non, c'est aujourd'hui que tu m'en as parlé comme ça brièvement.
Et, tu circules comme ça dans les...
Oui, tout à fait, parce qu'il faut informer. Il faut informer partout où la communauté se retrouve, où se trouvent les Africains. Il faut aller sur place, discuter, leur montrer le bien fondé de l'association.
Donc toi, tu ne connaissais pas?
Non, pas du tout. Je ne connaissais pas. On m'en a parlé là spontanément comme ça. Je trouve que c'est une super idée, parce qu'on est pratiquement tous passés par là.
Toi, tu connaissais l'association?
Oui, j'en fais partie. Et donc,
ah bon, tu es venu ici pour le foot?
Oui, bien avant. Ouais, je suis arrivé en France pour le foot. On m'a fait miroiter, et puis par la suite, je me suis retrouvé à mon propre compte, à tout seul, à végéter par-ci, par-là. Et donc, c'est
un agent qui t'a recruté?
Oui, c'est un agent, ouais. C'est tout, il pilule en Afrique.
Où ça?
Je suis parti du Cameroun, voilà, Cameroun. L'optique de venir faire sport études en France, et donc j'ai été conduit par un agent qui s'appelait Monsieur, je peux appeler le nom?
Oui, oui.
Oui, Patrick Glanz. Et donc c'est Patrick Glanz, et à l'époque il était directeur sportif à Créteil. Et donc c'est à partir de là où, ayant su qu'on ne pouvait plus évoluer ensemble, il a pris la poudre d'escampette.
Il s'est disparu?
Il a disparu, oui.
T'as quel âge?
Là j'ai 25 ans.
25
ouais. C'est très tôt d'arrêter à 25 ans, non?
Il a joué en première division au Cameroun, il a été pré-sélectionné à l'équipe nationale du Cameroun. Je parle en particulier pour lui parce qu'on est dans le même quartier, on est presque ensemble, on a grandi ensemble. Et il a été pré-sélectionné à l'équipe nationale du Cameroun, il a joué en première division dans plusieurs clubs au Cameroun.
C'était un grand espoir, quoi, alors?
C'était un grand espoir. Et il n'est pas le seul, il y en avait un autre derrière vous, il y en a un autre à côté, ils sont partout.
Il y a des jeunes qui ne font qu'arriver, hein. De plus en plus, ils arrivent, ils n'ont pas d'informations, ils viennent comme ça à la fleur. Au fusil, tranquille, en se disant, voilà, je vais au PSG, et il se retrouve dans un McDo, en train de travailler, dans un McDo au noir, en plus, il se retrouve, moi, je connais quelqu'un, l'un de ces jeunes, qui a travaillé dans une chambre froide, il se retrouve avec une tuberculose, aujourd'hui, il a disparu de la circulation.
Aujourd'hui, on parle de la fin de l'esclavagisme, je pense que dans les milieux du foot, je crois que c'est là encore sévi d'esclavagisme moderne. Ils sont clandestins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se jeter devant la première chose, soit dealer, soit se prostituer.
Dans tout le monde entier, il y en a partout, il y a des cas comme ça, il y en a, j'ai quelqu'un qui a abandonné, en Chine. Il sait pas comment il doit revenir.
En Chine?
Ah ouais, il y en a partout.
C'était mon milieu de terrain, comme moi.
Venez,
c'est justement pour ça qu'il faut parler, mon gars. Non, c'est justement non, ça aide, ça peut aider.
Viens, cousin.
Tu vois, celui-là, il veut pas parler parce que il est dégoûté. Il est dégoûté, lui c'est vraiment, il a peur de représailles, il veut pas du tout parler, quoi. C'est difficile, c'est vachement difficile, quoi.
Il y en a des milliers de joueurs africains qui sont arrivés en Europe, de tout pays.
Vous étiez en colère tout à l'heure, hein. Ouais. Vous êtes passé, vous avez entendu ce qu'on racontait.
Ouais.
Hein. Vous connaissez ça, la situation?
Oui, moi je connaissais la situation petit à petit, parce que c'est pas longtemps que je suis venu ici. Oui. Maintenant j'ai fait ici 8 mois, je connais la France maintenant, un peu.
Tu viens d'où?
Sénégal.
Tu as quel âge?
26 ans, mm-hmm. Je suis international sénégalais.
C'est un haut niveau ça?
Oui, je suis première division, je suis en Coupe d'Afrique des clubs champions, j'ai parti partout. Boubacar Sarr, c'était mon entraîneur national junior. J'ai venu en Portugal avant. Il y a un manager qui m'a amené là-bas.
Un manager, oui.
Oui, c'est des problèmes là-bas.
Du Sénégal, il y a un manager qui t'a fait venir au Portugal.
J'ai venu au Portugal, il m'a dit que voilà, on part en France. On est venu en France, il est parti. Il m'a laissé. Quand je pars dans un club, toujours c'est des problèmes de papier.
Parce que toi, tu n'as pas de papier là?
Non, oui, j'ai pas de papier. On a des problèmes sérieux ici. Problèmes sérieux. Quand tu sors, il y a les policiers et tout. Quand tu passes quelque part, on t'arrête, tu n'as pas de papier, tu rentres en Afrique. Tu n'as pas de droit, tu n'as rien. Ça fait mal.
En fait, on a gros sur le cœur, là.
Oui, hein? Oui, parce que ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que l'Afrique, il n'y a pas beaucoup de moyens, mais il y a la solidarité. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de moyens, mais il y a la solidarité dans les équipes. Mais ici, ce n'est pas la même. Qui va te donner de manger, à boire? Tu as quitté l'Afrique pour venir se jouer.
Et tu veux pas retourner en Afrique?
Non, pas. Non, je voulais pas retourner en Afrique.
T'aurais honte de revenir?
Voilà, c'est ça le problème. J'ai honte. Je te dis la vérité, j'ai honte de partir. Vraiment. À ce cas-là, ça me fait mal. Maintenant, mon carrière, c'est fini. Même mon entraîneur qui est là, quand il voit que moi, maintenant, je travaille, il a fait mal parce qu'il dit que voilà, ce gosse-là, il a beaucoup de talent. Il a beaucoup de talent. Mais maintenant, tu vois, il a gâté son carrière. C'est à cause de quoi? Les mauvais ménagères. C'est moi qui ai payé mon billet pour venir en Europe. C'est pas lui. Il a dit que voilà, vous payez vos billets, vous venez, je vous rembourse.
Mais pourquoi il t'a abandonné?
Parce que le mercato était fermé.
Le mercato?
Parce qu'on a bloqué les licences, c'est fini.
Ah, il n'y avait plus assez de place.
Les transferts, c'est fini.
Les transferts, c'est fini. Donc il t'a laissé tomber, quoi, t'a abandonné.
Il m'a abandonné, il est parti.
Et c'est le but. Comment cela s'est-il passé? Eh bien, c'est Léa qui avait la balle à l'aile gauche. Il a passé à Ndongo. Ndongo se trouvait des 16 mètres. Ndongo a passé à Joseph. Et Joseph, vous le savez, a placé une tête. Mais alors là, une de ces têtes qui a battu cette fois le gardien de but, Tommy. Il s'est écroulé. La balle est passée entre ses deux bras et on l'a vu se reposer dans la lucarne, dans les filets de Tommy. Qu'est-ce qui se passe ici au terrain? Eh bien, c'est tout le stade qui est soulevé. 40 000 personnes. C'est tout un souffle qui monte au ciel, mais très haut dans le ciel, alors que le chef de l'État camerounais, Elak Amadou Aïdjo, lui-même est là. Je crois voir son sourire, car il est très clair. Ce sourire qui semble illuminer les spectateurs qui se trouvent à côté de lui, à la tribune principale.
Alors, tout ce qu'on vous raconte là n'est pas nouveau du tout. Le commerce et la traite des footballeurs africains et sud-américains en Europe, c'est le titre d'un gros bouquin édité aux éditions de l'Harmattan, d'Evariste Chimamanda Bakadia Babou. Je m'excuse si je prononce pas correctement votre nom. Eh bien, voilà quelqu'un, un chercheur qui a travaillé sur ce trafic. Et n'hésite pas à parler de commerce et de traite des joueurs, aussi bien des joueurs africains que des joueurs sud-américains. C'est un scandale qui avait d'ailleurs ému en son temps la ministre de la jeunesse et des sports, la ministre française de la jeunesse et des sports, Marie-Georges Buffet, qui avait exprimé son indication en disant le résultat de ce commerce indigne est connu pour une infime minorité de ces jeunes qui va parvenir à l'élite et décrocher un contrat, combien vont se retrouver hors du système, livrés à eux-mêmes, coupés de leur famille, en situation de très grande précarité. Quel est le poids d'un ministre ou d'une ministre de la jeunesse et des sports face à la toute puissance du foot business? Pas l'impression que ça pèse beaucoup. En tout cas, le problème reste entier et l'arnaque continue.
Ce qui est étonnant dans les témoignages qu'on recueille, c'est que il y en a beaucoup qui arrivent et fraîchement arrivés sont déjà lâchés par l'agent. Alors il est où le commerce là, l'arnaque, elle est où l'arnaque?
L'arnaque, c'est que certains agents déjà, ils vont trouver un club. Parfois, la plupart du temps, ils forcent la main au club. Voilà, j'ai un génie en Afrique, j'ai un génie, il fait ceci, il fait cela, il fait des miracles. Écoutez, moi, je le fais venir et puis vous débrouillez, quoi. Et puis on essaie de voir si le gars est bon et voilà. Il va récupérer le jeune en Afrique. Déjà, il soutient de l'argent aux parents la plupart du temps. Et le billet d'avion est payé par le gamin et sa famille, en plus d'une certaine somme. Et lorsque le jeune arrive en Europe, l'agent de joueur se fait, déjà parfois rembourser déjà le billet d'avion et
sont par le club ici en France.
Oui, tout à fait. J'ai vu de très nombreux cas. Ils sont remboursés le billet d'avion, ils sont remboursés soi-disant les frais d'hôtel, etc., hébergement, on ne sait pas à combien ça peut remonter. Ensuite, l'agent très souvent dit, voilà, écoutez, on signe un pré-contrat, vous me donnez tant d'argent, 50 000 balles, et puis on verra si dans un an ou deux ans, il arrive à percer, là, on signera le gros contrat à 1 million de francs, ou comme vous voulez, à 1 million d'euros. Et voilà, le club se dit, voilà, c'est une bonne affaire, voilà, on allonge. La plupart du temps, les agents, ces agents-là, cette espèce d'agent-là, se contentent de ça. Donc ça veut dire que si, imaginez qu'ils ramènent une cinquantaine de jeunes, en prenant, disons, 10 000 euros par club, une cinquantaine de jeunes, qu'est-ce que ça peut faire comme somme? Ça fait une somme coquette quand même.
La mère m'avait tout dit, venez pas jouer au foot. Mon père m'avait tout dit, d'aller toujours jouer au foot pour gagner ma vie. Je suis un grand guerrier, je dois gagner tout ce soir.
Alors beaucoup de spécialistes, de journalistes, d'observateurs, d'acteurs du monde du foot sont sensibilisés, ils connaissent ce sujet. Ce qui est assez curieux, c'est que ça n'arrive pas jusqu'au public. Or, il y a un public pour le foot dans le monde, et en France tout spécialement. Et alors, voilà, il y aurait comme une espèce de petit déficit d'information, semble-t-il, en la matière. On a rencontré Fawzi Majoub, qui est journaliste spécialisé sur le foot africain depuis 1961, compétent, vétéran.
c'est tout à fait dans la logique du foot business et dans la logique aussi de la mondialisation qu'il y a dans le sport. Parce que bon, la mondialisation concerne trois secteurs. Elle concerne bon, le secteur des images, quoi, le secteur des équipements et le secteur des acteurs. Les acteurs, c'est-à-dire les joueurs. Bon, maintenant, les pays qui ont le plus d'argent, c'est eux qui peuvent acheter le plus. Et comme bon, la matière première, c'est-à-dire les joueurs, se trouve en grand nombre en Afrique, et en plus avec le fait que les pays qui importent ne payent pas la formation, ne font pas ces joueurs-là. Donc c'est des joueurs déjà qui sont bons, quoi, qui sont déjà préparés, qui sont formés, soit dans la rue, soit dans les centres de formation, donc qui coûtent moins cher. C'est évident que ça coûte moins cher, parce que quand vous formez un joueur en France, si vous le formez en Afrique, la différence est là. En France, il va vous coûter 10 ou 20 fois plus cher que qu'il est formé sur place, quoi. Bon, à partir du moment où le joueur devient une marchandise, ou surtout pour les jeunes qui, la plupart du temps, ne savent pas qu'est-ce qu'ils signent et quand ils signent. Bon, c'est évident que c'est une forme d'esclavagisme moderne, ça c'est clair, hein. Le rapport, c'est ça, entre celui qui achète et celui qui vend, c'est ça, hein. C'est ça. Bon, maintenant, moi, je voudrais beaucoup insister sur la responsabilité des pouvoirs politiques en Afrique. Parce que c'est eux qui tolèrent ça. Ils le tolèrent de deux manières. Un, où ils ne font rien pour ces jeunes-là, ou ils ferment les yeux. Donc, avant, disons, de dénoncer les méthodes des agents européens ou de comportement des clubs européens, il faut d'abord laver devant sa propre porte. Si ces jeunes peuvent partir, c'est qu'ils peuvent obtenir des passeports. Et pour obtenir des passeports, donc, il faut qu'ils passent par une complicité des autorités administratives du pays. En plus, il faut qu'ils aient une lettre de sortie, ce qu'on appelle une lettre de sortie, c'est-à-dire de la fédération locale. Donc, il faut aussi qu'il y ait des complicités. Donc, disons, cet exode massif n'a pas...
Vous parlez d'exode massif.
Absolument. N'a pas pu se passer s'il n'y avait pas une complicité de l'autorité administrative et sportive dans les pays africains. Ça, c'est clair, hein. Et les joueurs ne peuvent pas, les jeunes ne peuvent pas partir comme ça tout seuls, hein. Donc il faut qu'il y ait des relais, et les relais, évidemment, sont payés aussi par ceux qui recrutent. Ils payent aussi, ils payent des administrateurs, ils payent pour que le jeune prend les passeports, et ensuite il offre de l'argent aux parents. Il y a toute une chaîne qui s'est constituée d'une manière plus ou moins informelle, mais qui permet de recruter large, de ratisser large, et d'avoir beaucoup de jeunes. Alors, évidemment, ceux qui recrutent ne savent pas toujours s'ils ont des joyaux, des joueurs surdoués ou pas. Donc ils prennent au maximum. Après, bon, ils les passent au tamis quand ils viennent en Europe. Évidemment, il y a beaucoup plus de déchets, disons, de ceux qui ne réussissent pas, parce que bon, soit qu'ils n'ont pas le talent, soit bon, qu'ils ne trouvent pas preneur par rapport à ceux qui réussissent, disons. Moi, je dirais que ceux qui réussissent, c'est à peine 20%.
À peine 20%, c'est un chiffre qui semble déjà assez optimiste, mais l'irréductible là-dedans, je le disais en commençant, c'est le rêve. Le foot fait rêver. Rodrigue, aujourd'hui, il a 22 ans, il est arrivé en France par ses filières il y a 2 ans. En arrivant en France, il a été lâché par son agent, comme ça, allez hop, qui n'a même pas donné la peine de le présenter à des sélections envers des clubs, etc. Donc il s'est contenté de piquer l'argent du passage. Ça fait partie de toutes les ficelles et de toutes les arnaques et de toutes les entourloupes de ces passeurs. Ça date pas d'hier, et on retrouve ces passeurs un peu partout, auprès des clandestins, et il n'y a pas une très grande différence entre cette traite des blanches cette traite des noirs, entre la traite des blanches et la traite des noirs, c'est la même chose, c'est la même surexploitation. Mais il y a avant tout le rêve.
Oui, parce que tout ça, ça te fait pas manger. Et comment tu fais pour vivre alors en ce moment?
Moi, c'est tout à l'heure, lorsqu'on va finir l'interview, je vais vous demander de me donner 5 euros, sincèrement. Parce que c'est comme ça qu'on vit. On vit au jour le jour. Tant que t'as pas de papier dans ce cher et beau pays. Moi, sincèrement, la France, c'est magnifique. C'est très beau. Paris, quand tu entends Paris. Paris, c'est voilà, quoi. Mais on a juste besoin de ce petit bout de papier-là. Moi, j'ai juste besoin de ça pour essayer d'apporter ma pierre à la construction, à contribuer également au développement de ce pays et peut-être aider les autres qui sont en Afrique et les autres. Pour moi, c'est mon rêve. Vous voyez un peu? Le jour où on me donnera ces papiers, voilà, j'aurai été mon rêve. Et je pourrai revenir sur le terrain de foot. Je dois rêver. Le rêve, quand est-ce que le rêve finit? C'est quand tu meurs. C'est quand tu meurs que tu peux plus rêver. Mais ces gens qu'on entend qui sont suicidés là, mais ça, c'est des faiblards, ça, c'est des gens faibles. Et un footballeur déjà, un footballeur du nom qui sort de l'Afrique, avec toutes les difficultés qu'il y a en Afrique, arrive ici, il a de l'énergie. L'énergie, il a ça. Il a ça dans ses entrailles. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas rêver? Moi, je rêve, monsieur le journaliste. Moi, je rêve. Moi, je rêve, Thierry. Je rêve sans te mentir. S'il te plaît, Thierry, ne me coupe pas ce rêve-là. Moi, je rêve. Je dois jouer au foot. Tu vois, quand je suis avec les gamins sur le terrain, lorsque je suis à fond, et lorsque les 1h30 d'entraînement des enfants finissent, je m'assois, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais là, tout à l'heure, là? C'est fou. Ça me donne les larmes quand je te parle. Tu vois, ce sourire que je vous donne, que je suis en train de... Je sais pas si c'est un sourire masqué, mais j'essaie quand même de garder ce sourire. Parce que c'est ça qui me permet encore de respirer. Ce petit sourire-là, ça fait très mal. Très, très mal. Il y en a d'autres qui ne peuvent même pas se placer devant vous et parler comme ça. Il y en a plein qui peuvent pas. Qui peuvent pas.
Mais Rodrigue, tu n'aurais pas envie de rentrer au Cameroun?
J'ai envie de rentrer au Cameroun. Dit qu'on n'a pas envie de rentrer chez soi, je me demande si c'est sensé de le dire. Mais rentrer chez toi comme ça, bredouille. J'aimerais bien faire comme disait Drogba, qui aujourd'hui s'élève, il va en Côte d'Ivoire, il va rendre visite à la famille, il laisse un bout de pain, il revient.
C'est un grand joueur de foot, ça.
C'est un grand joueur de foot. Il faut toujours prendre l'exemple sur l'idéal. Pourquoi ne pas donner l'occasion à Rodrigue aussi de le faire, d'aller au Cameroun et de revenir.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette belle enceinte. On va surjouer aujourd'hui un match.
D'envoi sur le terrain, je juge comme un lion. Mal au pied, j'ai le talent, la chance comme allié. Attaquant, ouais. Moi je prends la rime en taclant. En silope, ça, robuste sans basé. Indomptable, sur le terrain, on est les rois. Physiquement adapté comme Jean Jouéa. Rythme diablé, même en dribblant. Quand adverse sur le terrain, on est troublé. Les couleurs, Cameroun, assieds-toi là. Foot en sorcelé, ouais, ça vient de Douala. Platitier, et je trompe mon adversaire. Elle gauche et mon équipier frappe sûr. 1-0, je vous jure, on vous sauve. Dans le mille et comme Roger Milla, champion d'Afrique, on veut pas d'une coupe en toc. Même au Japon, sur le terrain, on fera danser le coq. On veut la coupe en équipe, faites la hola. C'est l'Afrique qui rugit, on est tous là. Lion indomptable, on se met à table. Marque des buts, les talents restent incontestables. 1, 2, 3, 0, on les aura. Levez les bras bien haut. 1, 2, 3, 0.
Attention, colle. Allez, tu veux SM. Winner, tu vois. Allez.
Winner. Le grand mot là, je sais pas si vous l'avez chopé au passage. C'est winner. Winner. Gagné. Que deviennent les losers? On n'en parle même pas des losers. Les losers disparaissent, on les élimine. Élimination prend parfois un sens particulièrement cruel et indigne. En l'occurrence, on n'hésite pas à utiliser le mot de traite véritablement négrière. Justement, c'est pas la peine d'aller à Douala, ou je ne sais où, très loin en Afrique, dans notre région parisienne, à nos portes, le dimanche ou le samedi ou n'importe quand, sur les terrains d'entraînement, on peut rencontrer des personnages tout à fait respectables, bien évidemment.
Vous êtes agent?
Oui, je suis agent FIFA, agréé.
Oui.
Oui. Et je m'occupe plus précisément des jeunes cas. Des joueurs sud-américains et africains, d'essayer de les recaser, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller au haut niveau. je les dirige vers l'Asie du Sud-Est ou en Asie pour pouvoir évoluer. J'essaie de recruter dans les banlieues en France et en Afrique.
Alors je vois que vous avez vous recrutez large parce que hein, sur le ouais. Vos numéros de mobile
oui,
là, sur votre carte de visite, il y a Malaisie, Indonésie, Cameroun, Paris, Vietnam, Singapour. Et ça, vous avez des numéros de téléphone pour tous ces pays-là.
Oui, il y a hein, toujours quelqu'un qui vous répond en cas d'urgence. S'il y a un joueur bloqué dans un aéroport, je peux envoyer quelqu'un au Bangladesh. Par exemple, j'ai un représentant. J'ai des joueurs qui sont amenés en Afrique avec des impresarios et qui sont délaissés. Alors j'essaye de regrouper tous ces cas. Même si on ne peut pas finir, j'essaye de gérer les plus difficiles.
Donc ça veut dire que c'est un commerce mondial, ça?
Non, enfin, vous pouvez appeler commerce, mais moi j'essaye de faire, j'essaye de redonner au football ce que le football m'a donné. Après la Coupe du Monde 94,
vous étiez un grand joueur, hein?
Oui, j'ai commencé étant joueur à aider déjà dans ma capitale au Cameroun, des joueurs qui venaient des provinces à aller trouver un logement. Et après, pendant ma carrière professionnelle, j'ai toujours aidé. Et après la carrière, je me suis dit, bon, je peux voyager dans le monde, essayer d'aider les joueurs en difficulté. Et c'est vrai que les gens peuvent appeler ça commerce, mais moi je n'appelle pas ça commerce parce qu'au fond c'est mes fonds personnels que je dépense.
Vous vous occupez de combien de jeunes? Vous avez combien de jeunes?
Je n'aime pas compter, mais j'ai environ 350 jeunes de part de...
Ah oui, c'est beaucoup ça.
Ouais, mais avant il y en avait plus. Je ne peux même plus reconnaître les noms.
Ok, merci.
Voilà, un agent. Commentaire de... Bévoumine, ce footballeur d'origine camerounaise qui a créé cette association Culture Foot Solidaire.
Tout est faux là dans ce qu'il raconte. l'agent bienfaiteur déségaré du foot.
Là c'est quand même terrifiant, c'est terrifiant, c'est terrible. Moi je croirais voir là une espèce de négrier, bon voilà, quelqu'un qui recrute, qui ramasse des jeunes à gauche à droite et puis voilà quoi. C'est
là on est sur un stade de foot, là on a une porte de Paris, porte de Choisy, et en fait qu'est-ce qu'il est venu faire là?
Écoute, je pense qu'il est venu essayer de voir s'il y a des jeunes intéressants pour voilà, il continue son métier de bienfaiteur.
Toi tu sais, parce que son nom est cité souvent, que ça fait partie des agents crapuleux comme ça, ce que tu appelles des négriers.
Vous savez, quand vous rencontrez beaucoup de jeunes et que on vous dit, voilà, par qui t'es venu, qu'est-ce qui t'a aidé, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Sénégal, et que certains n'en reviennent très souvent, tu te dis, voilà, ils sont un peu dans une espèce de liste noire de culture foot, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont vraiment indexés, et il n'est pas le seul, hein. Ils sont nombreux, hein.
Ah, c'est un business comme ça, presque mondial. Il nous explique qu'il va en Malaisie, après en Tunisie, en Afrique.
Oui, c'est un business mondial, hein. Le football aujourd'hui, vous savez, avec ce qu'on appelle aujourd'hui, avec le village global, hein, le football n'échappe pas à ça, à ce phénomène. Et puis chacun essaye de, là, il a son coin d'Asie du Sud-Est, Afrique du Nord, Amérique du Sud, qu'il sillonne, qu'il ratisse. Bon, ça aurait pu être, d'ailleurs, comme là, il est aujourd'hui en France. C'est comme ça, il y en a comme ça. Et des pires, quoi. Mais disons que franchement, je suis terrorisé parce que, bon, moi, on en avait discuté un peu, plus ou moins, il y a 2 ans, mais je me rendais pas à quel point il était vraiment, dans le truc, quoi.
Nous sommes les lions et non ta wonderful. On va gagner tout à l'heure, on va les niquer d'afou, on va leur donner une baffe. Aïe 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 aïe. Ils sont les trouillas, ils sont les fêtes, pas la foule.
Merci monsieur.
Et dis-moi, est-ce que t'en veux toi à cet agent qui t'a fait venir ici et qui t'a largué en cours de route?
Si je savais que c'était comme ça, on aurait bien arrangé les choses avant d'arriver.
c'est les réalités qu'on ne connaît pas. Vous savez, moi je me dis, c'est comme l'eau de la source qui mène à la mer, qui parfois se perd dans les dépressions, qui parfois passe par des chutes et des rapides. Donc moi je me dis, la vie d'un footballeur qui n'a pas de papier en France, c'est que c'est comme l'eau de la source qui mène à la mer. Parce que l'eau de la source qui mène à la mer, c'est quoi? Parfois l'eau de la source n'arrive pas à la mer, hein. Ça se perd dans les dépressions, les chutes. Donc moi je suis en train de vouloir peut-être me perdre dans une dépression là, ou dans une chute, ou dans un rapide, c'est pas. Mais mon rêve, c'est d'arriver à la mer. Thierry, mon rêve, c'est d'arriver à la mer. Et la mer, c'est quoi? Arriver comme Zizou.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
C'était Va te faire foot, un reportage de Thierry Scharf. Plus d'informations à votre disposition sur le site de la Batigissuie en allant sur franceinter.com. À la technique, Patrick Henry et Benjamin de la Gâtinais. Réalisation Koyen Guyen, assisté de Yann Chouquet et Pascal Pascariello. Chef du répondeur, Christophe Imbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez le répondeur de la Batigissuie au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.